Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Bonjour à tous, ici Pauline Aignot et vous êtes sur un nouvel épisode du Gratin. Comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être dans ce cas une personnalité remarquable avec ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions afin de vous faire réfléchir et puis de vous faire bénéficier de son expérience pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un petit service à vous demander pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, même si vous êtes déjà très très nombreux à être passés à la casserole. Si je puis dire, eh bien, je veux bien que vous me fassiez ce grand plaisir, ce grand service de me laisser, s'il vous plaît, un avis sur le podcast. Je sais que c'est pénible à faire, ça prend un petit peu de temps, mais c'est ça qui permet au Gratin de déployer ses ailes et d'être connu par un maximum de monde. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça compte et que ça a un impact parce que c'est en ayant un maximum de monde sur le Gratin que j'arrive à vous dégoter des invités aussi cool. Aujourd'hui, j'ai un épisode très spécial pour vous puisque je suis avec Jean de la Roche-Brochard. Jean de la Roche-Brochard qui est VC. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? VC, ça veut dire venture capitaliste. En d'autres termes, investisseur dans des startups. Et en l'occurrence, avec Kima, l'entreprise dans laquelle Jean travaille, Jean se spécialise sur les startups en phase d'amorçage, c'est-à-dire qu'ils en sont au début de leur aventure entrepreneuriale. Pourquoi est-ce que cet épisode est spécial? Tout simplement parce que Jean fait partie des rares invités que j'ai eu le plaisir de recevoir pour une deuxième fois sur le Gratin. Du coup, avant toute chose, mettez stop et allez écouter le premier épisode qu'on a fait ensemble parce qu'on est vraiment rentré en détail sur son parcours, sur le métier de VC, donc venture capitaliste, investisseur, dans ce premier épisode qui était le numéro 5, donc il y a très très longtemps, sur l'épisode du Gratin. Aujourd'hui, du coup, j'ai voulu aborder les choses de manière complètement différente avec Jean, de manière plus personnelle, pour vraiment comprendre plus qui il est, qu'est-ce qu'il fait bouger, qu'est-ce qu'il fait avancer, pourquoi est-ce qu'il crée autant de contenu, sa décision de quitter Paris pour vivre à Aix. On a parlé aussi de vulnérabilité des entrepreneurs, un sujet qui me tient à cœur et vous verrez qui tient aussi énormément à cœur à Jean. Je pense que cet épisode et les paroles que nous a livrées Jean pourront vraiment aider de nombreuses personnes, d'ailleurs qu'elles soient entrepreneurs ou non. On a aussi abordé le sujet de Clubhouse et puis surtout d'investissement dans cette période particulière qu'est le Covid pour savoir quelles étaient les nouvelles tendances qui avaient pu émerger. Enfin, pour terminer, on a quand même parlé un petit peu d'investissement financier et Jean nous a donné quelques très bons conseils pour réussir à déceler des hauts potentiels chez les entrepreneurs. Vous le verrez, Jean est très très loin de l'image d'Épinal qu'on peut avoir de l'investisseur, parfois un peu froid, parfois un peu distant. Jean est solaire, il a une intelligence sociale qui est sa force et qui d'ailleurs fait tout son talent d'investisseur. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean de la Roche-Brochard. Salut Jean.
Salut Pauline.
Trop contente de t'avoir sur le Gratin.
Moi aussi, ça fait
un
bail.
Bon, alors déjà, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, on ne va pas reparler de ton parcours, donc écoutez-le, mettez pause, messieurs, dames, et bam, on y retourne. Et maintenant, on va parler du Jean 2021.
Waouh.
Waouh, il s'est passé des trucs. Alors, juste, quand on s'est recontacté pour que tu repasses sur le podcast, tu m'as tout de suite dit, j'aimerais parler d'un sujet, c'est la vulnérabilité des entrepreneurs. Ouais. Et alors, je te cache pas que j'ai très envie de commencer par ça, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut bien dire par là? D'autant plus que, bon, alors du coup, j'ai fait mes petites recherches. Vulnérabilité, ça veut dire quand même, je fais un petit moment de culture, ça vient du latin et ça veut dire, ça vient de vulnus, la blessure, la plaie. Donc globalement, c'est quelqu'un qui peut être blessé, qui peut être attaqué, qui est faible, quoi, globalement. En quoi est-ce que tu veux me parler de vulnérabilité des entrepreneurs? Quel est le message que tu voulais me faire passer en m'envoyant ce mail?
Alors déjà, je trouve ça hyper sympa d'avoir l'étymologie du mot parce que je le connaissais pas. Je regarde une série en ce moment qui s'appelle Vikings. Et donc, les mecs sont blessés en permanence. Ils font la baston toute la journée. C'est totalement gore. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, donc eux, justement, sont blessés physiquement, se retrouvent soignés par les gens qui sont proches d'eux. Et tout d'un coup, ces soins souvent les rapprochent, tu vois. Et on a tendance, quand on est blessé, à avoir peur du regard de l'autre, à avoir peur du jugement, et donc à pas partager avec les autres ses blessures ou les moments doux, ou les difficultés. Et donc, au lieu de partager ces moments et de reconnecter avec des gens qui peuvent nous être utiles, en fait, on s'enferme sur soi. Et cet enfermement, il te détourne de la vérité, il te détourne de l'empathie que peut avoir les autres pour toi, il te détourne d'un tas de choses qui sont en fait les belles choses de la vie, des rencontres des gens et du fait de se mettre à nu et que les gens vont pas se mettre à te taper dessus. Tu vois, au contraire, ils vont... Et ça me fait penser à ce bouquin dont je parle souvent, mais qui est « The Five Dysfunctions of a Team », où ils se retrouvent autour de cette table pendant un séminaire dans la Napa Valley. Et au démarrage, la CEO demande à chacun de raconter une histoire marquante de leur passé. Et chaque histoire marquante, en fait, dénote un trait de personnalité fort que les gens n'acceptaient pas jusqu'à présent, que maintenant ils comprennent parce qu'ils en connaissent la source, et donc ils deviennent tolérants. Et cette tolérance crée la confiance, etc. Et en fait, il y a quelques semaines, pendant une semaine entière, j'ai dû parler à 4-5 entrepreneurs qui étaient en train de se voiler la face, qui ne voulaient pas parler des difficultés. Et certains que j'ai débloqués, j'ai un peu forcé la main. Et à la fin du call, ils m'ont dit « Ah, ça m'a fait du bien de parler. Ce serait bien qu'on puisse reparler dans un mois si ça te va. J'ai pas l'impression que je peux aborder ces sujets-là avec mes investisseurs. Je veux pas embêter mes proches avec. » Et tout d'un coup, tu vois, le fardeau... retombe, quoi. Et donc, la vulnérabilité, ouais, c'est... On parle souvent de l'échec, mais l'échec, c'est un mot un peu factuel, tu vois. La vulnérabilité, c'est ce que tu ressens dans l'échec, quoi. Et donc, j'aime bien, je pense que c'est important qu'on en parle. Moi, j'aime bien de... Quand je suis vulnérable, ça me rapproche de la terre, des trucs un peu... Ça t'enlève du brouhaha quotidien et tout. Ouais, c'est une belle chose. Et je pense que les entrepreneurs devraient s'autoriser à être vulnérables plus souvent, avec les bonnes personnes toujours, hein, mais de manière régulière.
Je trouve ça hyper intéressant et je te remercie. Et je pense que c'est un très, très bon message d'ailleurs pour des entrepreneurs et pour d'autres, parce que je suis complètement en phase avec ce que tu dis, c'est-à-dire que très souvent, on a peur d'être vulnérable parce qu'on a peur de la réaction des autres. Alors même que le paradoxe, c'est très souvent quand on se montre vulnérable, au final, on crée de l'empathie, tout simplement. Est-ce que tu as des exemples, c'est peut-être indiscret, ou est-ce que tu as des conseils peut-être pour des personnes, entrepreneurs ou pas à la rigueur, mais qui ont peur du regard des autres, notamment quand tu es entrepreneur, tu as peur en fait de la réaction du public parce que tu es tout le temps obligé de dire que ta boîte elle marche, que tu vois, tu fais du bon chiffre et tout, et c'est pas toujours le cas. Enfin, tu vois, il y a des moments où tu le sais mieux que personne, ça se passe pas bien. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui ont peur de s'exposer, mais pour autant qui souffrent profondément de cette espèce de mascarade, finalement? Et quand je dis mascarade, c'est ce masque qu'on est obligé de mettre de temps en temps.
C'est malheureusement un paradoxe avec lequel il faut vivre, quoi. Comme tu dis, tu as le paradoxe du fait qu'il faut que tu t'affiches publiquement comme une entreprise qui fonctionne. Et à côté de ça, tu sais toutes les difficultés auxquelles tu fais face. Mais pour reprendre une analogie, c'est comme dans le couple. Comment est-ce que tu arrives à montrer ta facette la plus vulnérable à l'autre sans perdre son admiration, tu vois? Et ça, c'est un... Et ça veut dire être toujours... En fait, le problème, moi, ce que je constate, c'est ce que je supporte pas, et c'est un problème d'intolérance, hein, donc je juge, même si j'ai pas envie dans ce cas-là, c'est que je supporte pas les entrepreneurs qui vont afficher de la vulnérabilité et ne rien faire derrière, tu vois. Ça, je trouve ça... Tu vois, ça me rend hyper mal à l'aise. Ou alors, qui passent leur temps à s'excuser d'être là, et qui, de l'autre côté, font pas les efforts nécessaires pour exister, quoi. Et donc, il faut arriver à vivre avec ce paradoxe. Alors, je sais pas comment on fait, mais c'est pour ça que je reprenais l'analogie du couple, mais c'est, tu vas toujours essayer de faire de ton mieux, etc. Et à un moment donné, tu vas t'offrir des moments dans ta journée, dans ta semaine, dans ta vie, où tu vas être complètement vulnérable. Et en face, ce que tu as dans l'autre, c'est qu'il soit complètement ouvert à cette vulnérabilité et que la personne en face soit tolérante. Et donc, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu choisisses aussi le moment quand tu dois être vulnérable, avec qui tu dois l'être. Mais le jour où tu décides ça, le moment et la personne, il faut que tu le sois complètement. Tu peux pas être à demi vulnérable. C'est hyper difficile d'avoir un entrepreneur en face de soi qui va te dire « Ah, en ce moment, c'est difficile, mais je sens que ça va repartir. » Non, arrête, ne mets pas ni un « mais » ou un « en revanche » ou un « ne t'inquiète pas » ou « mais je sens que… » Juste, parle-moi de la merde du moment. Dis-moi que ça va pas. Vas-y, on découle, quoi. J'ai pas besoin d'avoir ton optimisme. Tu vois, on n'est pas sur BFM Business. T'as pas besoin de raconter que tout va bien se passer malgré les difficultés du moment. Dis-moi que ça va pas, que c'est dur, que t'en chies. Et puis on y va, on en parle, tu vois. Donc voilà, le bon moment, la bonne personne. Et après, quand tu veux être vulnérable, il faut l'être totalement, quoi.
C'est ton rôle, tu dirais, à toi, en fait, paradoxalement, en tant qu'investisseur, de savoir faire accoucher, d'une certaine manière, les entrepreneurs de leurs problèmes pour qu'ils te les disent et qu'ils te voient pas uniquement comme un investisseur, parce que parfois, on peut se dire, OK, je lui dois des comptes, il y a quand même une petite dualité, on va dire. Et cette confiance que tu crées, je te parle de ça parce que je trouve, on se connaît pas si bien que ça, mais je trouve que tu as quand même beaucoup d'humanité en toi. Et c'est pas forcément le regard qu'on peut avoir souvent sur des investisseurs ou des financiers. Et une fois de plus, hein, je sais que ce sont des idées reçues, mais voilà. Et donc, je voulais savoir si toi, pour toi, un investisseur, c'est justement quelqu'un qui arrive à avoir cette empathie et à faire dire aux gens ce que même parfois ils n'arrivent pas à assumer, tu vois.
Dans chaque catégorie professionnelle, tu as des typologies d'individus. J'avoue, j'ai jamais catégorisé les investisseurs, donc je peux pas te dire il y a des opérateurs, des gens qui sont bons en stratégie, des gens qui sont bons en finance. Je pense que tu as autant de personnalités que tu as d'investisseurs potentiellement. En revanche, comme il y a une pression associée à l'investissement quand tu es entrepreneur, parce que tu as pris de l'argent de quelqu'un, il a pris une part dans ton capital, vous êtes marié, c'est irréversible, tu vois, c'est beaucoup d'engagement. Je pense que, enfin, j'espère qu'en tout cas, c'est une qualité de pouvoir complètement décorréler cette pression pour devenir quelqu'un à qui l'entrepreneur a envie de se confier. Et moi, dans mon métier, la raison pour laquelle je pense, et c'est pas un moment d'humilité, mais pour laquelle je le fais bien, c'est parce que je sens bien les gens, tu vois, et assez vite. Et j'aime bien d'ailleurs mettre sur la table très rapidement les sujets auxquels ils ont pas osé se confronter eux-mêmes et qui, je pense, vont les aider à progresser. Et c'est souvent quand tu le fais de la bonne manière qu'ils avancent. Et je repense à un call que j'avais dimanche soir avec une de nos entrepreneurs, qu'elle me raconte sa boîte. Donc, super croissance sur 2021, super pivot. Je pense que l'année 2019 était plus compliquée que 2020 pour elle. Et puis, à un moment donné, elle me dit « Mais Jean, est-ce que tu penses que je vais assez vite? Qu'est-ce que tu penses de ma boîte? Mon autre investisseur me dit que je ne suis pas assez agressif, que ça n'avance pas assez vite, etc. » Et moi, je lui dis « Écoute, tu vois, je regarde ton deck, je regarde tes chiffres, je regarde ton produit, je regarde ta marque. Bon, d'abord, j'ai l'impression que tu progresses. Ensuite, j'ai l'impression que c'est véritable par rapport à qui tu es, tu vois. Et moi, je suis pas là pour te juger, pour te dire ça va assez vite ou pas assez vite, etc. Ce que je constate, c'est que par rapport, tu vois, ta boîte te ressemble, tu vois, ta Founder Company Fit, tu vois. Donc là, on a un vrai fit avec des chiffres qui sont hyper bien maîtrisés. Et donc, aujourd'hui, il faut pas que tu ailles juste aller chercher les plus gros investisseurs du monde parce que ton investisseur a envie que tu affiches un index ou un Excel ou un DST sur ton site, quoi, tu vois. Il faut que tu ailles chercher des investisseurs qui te ressemblent, qui te comprennent et qui vont être les bonnes personnes pour t'accompagner. Et tout d'un coup, tu vois, j'ai senti la pression se libérer d'elle.
Le soulagement.
Ah, ok, donc on a le droit de faire une boîte qui nous ressemble, mais qui fait pas 400% de croissance par an, quoi. Ouais, bah ouais, t'as le droit. Parce qu'en fait, c'est pas le succès qui détermine ton bonheur, c'est le progrès, tu vois. Et le progrès, c'est plein de choses. Et c'est pas que la croissance. Et ça, tu vois, c'était important d'être l'investisseur qui lui dit pas, moi, je pense que, mais écoute, si je te regarde toi, si je regarde ta boîte, je trouve que le fit, il est bon, quoi.
Ouais, et puis c'est hyper important. Je trouve que l'investisseur qui, malgré tout, a un rôle un peu de garant, donne la permission de ne pas faire 400% de croissance, oui. Tu vois. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et c'est quand même pas si fréquent que ça.
Mais c'est aussi le modèle de Kima. Ce qu'on dit souvent avec Kima, c'est qu'on finance pas le succès, on finance le progrès. Et parfois, le progrès mène au succès. Et après, tu as différentes magnitudes de succès, tu vois. Tu as des boîtes qui vont nous rendre trois fois la mise, avec qui on a vécu une histoire formidable, mais la sortie est pas incroyable. Il y a des gens qui nous ont rendu 100 fois la mise, qu'on n'a jamais vu depuis qu'on les a financés. Et donc, l'histoire n'était pas incroyable, mais le retour sur investissement est super, tu vois. Et donc, nous, on finance au progrès, on ne finance pas le succès avec Kima. Et c'est ça notre mission, surtout quand tu sais que la moitié de tes boîtes ne vont pas réussir. Ces entrepreneurs vont se recycler. Quand ils vont de... Tu vois, on parlait de Adrien Falcon, juste avant, qui a géré l'Europe pour Deliveroo. Il avait monté sa boîte avant. Avant ça, il était opérateur. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est son parcours, quoi, tu vois. C'est pas s'il a réussi ou échoué en tant qu'entrepreneur avant Deliveroo.
Justement, ce repositionnement, tu vois, des personnes, je trouve ça hyper important d'en parler parce que très souvent, on voit tellement sa boîte comme une fin en soi qu'on pense pas tellement à l'après. On peut penser à la vente éventuellement, mais je parle pas de la vente, je parle de après la vente. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu recrées une boîte? Est-ce qu'au contraire, tu changes? Est-ce que finalement, cette boîte, elle a pas marché? Vous, tu me le disais juste avant de commencer, et toi en tout cas, ça t'amuse peut-être de un peu conseiller des personnes justement qui parfois se sont pas forcément trouvées dans un projet, mais qui peuvent, comme Adrien, qui s'était pas trouvé dans son premier projet et qui a explosé avec Deliveroo, trouver vraiment, tu vois, chaussure à son pied. Est-ce que pour toi, c'est un sujet justement au niveau de l'entrepreneuriat, des personnes qui ils sont un peu tête baissée dans leur truc, et puis à un moment donné, en fait, bah ça marche pas, mais juste parce que c'est peut-être pas le bon fit projet personne. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces personnes-là?
Et c'est un sujet assez général, en fait, hein, de tout le monde. C'est,
bien sûr.
T'avances dans la vie, et si tu peux prendre, tu prends 10 personnes dans la rue et tu leur demandes si un jour elles ont fait l'introspection de comprendre qui elles étaient, la majorité des cas, les gens te diront non, jamais. Je sais pas. T'as peut-être fait un peu de psy, un peu de thérapie, un peu de machin, peut-être un peu de coaching, mais comme ça, en dilettante. Mais les gens se connaissent pas eux-mêmes. Je trouve ça dingue, tu vois. Et donc, ils avancent sur la base de leurs fantasmes. Et on avance tous sur la base de nos fantasmes. Tu vois, tu débarques devant une vitrine, tu vois un beau truc, tu dis « Ah, c'est génial, oh, c'est joli, hein, c'est bien, tu l'essayes, tu trouves que c'est canon, t'es dans le moment, il fait beau, il fait 22-23 degrés, t'es au mois de juin, le truc est sympa, tu le mets. » Mais au bout d'une semaine, en fait, cette excitation est partie. Et en fait, quelques années plus tard, tu ouvres ton placard et tu te rends compte que t'as 1000 trucs dans ton placard, en fait. Et que c'est les 1000 fantasmes que t'as eu devant les vitrines. Et en réalité... dans la vie, on a souvent ce même procédé où les parents te disent « Chérie, fais ce que t'aimes, parce qu'on est bon dans ce qu'on aime. » Non, en fait, parce que ce que t'aimes, c'est un fantasme. On aime ce qu'on fait bien, ça c'est sûr. Est-ce qu'on est bon dans ce qu'on aime? Non, parce que d'abord, ce qu'on aime, c'est ce qu'on croit aimer, et c'est pas toujours ce qu'on aime. Et donc ça, c'est, tu vois, c'est un vrai sujet. Et ensuite, c'est pas vrai, quand on aime ce dans quoi on est bon. Donc moi, j'invite les entrepreneurs quand ils se posent des questions ou quand ils sont dans une phase de remise en question, de se poser tout simplement la question de ce dans quoi ils sont bons, ce dans quoi ils peuvent progresser et ce dans quoi ou autour de quoi ils doivent s'entourer, parce que parfois, t'es pas la bonne personne. Et la qualité d'un entrepreneur, c'est pas tout faire bien. Et c'est pour ça que les CEO restent dans les boîtes pendant 10 ans, alors que les associés souvent spécialisés sur des sujets partent plus tôt. Parce que c'est facile de remplacer un expert dans un domaine. C'est difficile de remplacer quelqu'un de transversal, qui est le garant de la culture, qui est le garant de la stratégie, etc., qui fait le lien et tout. Donc, voilà. Et les entrepreneurs, moi, ce que je leur invite à faire, c'est se comprendre eux-mêmes, se savoir dans quoi ils sont bons, savoir de qui ils doivent s'entourer, etc., quoi. Et ouais, si je faisais autre chose qu'être investisseur, je pense que je ferais ça, tu vois. J'aiderais les gens d'abord à se trouver, quoi, à savoir qui ils sont. Et il faut que les entrepreneurs apprennent à faire ça, c'est essentiel.
C'est marrant parce que je l'avais te demandé de manière hyper indiscrète. Du coup, si je te pose la question à toi, Jean, au final, toi, du coup, je ne sais pas comment le formuler, dans quoi est-ce que tu es bon?
Ouais.
Et puis, c'est quoi le truc qui te drive, tu vois, le truc qui te porte finalement? Pourquoi tu fais tout ça? Enfin, on en avait parlé dans le premier épisode, tu reçois, je ne sais pas, 400 mails par jour, je pense que tu bosses beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin et qu'on sent que tu as la pêche, que tu as juste envie, que tu es trop content et que tu kiffes ton job, quoi?
Ouais. Bon, alors la question, elle n'est pas facile. Ce qui est sûr, c'est que enfin, n'importe quelle réponse à cette question, quelle que soit la personne à qui tu la poses, tu as un sujet de paradoxe, quoi. Hein, toujours. Et moi, le mien, c'est que j'ai besoin d'être efficace, de me sentir utile, d'avoir la reconnaissance des gens. C'est ma névrose à moi, tu vois. Et c'est pour ça que Kima est formidable, parce que Kima, je vais passer une demi-heure avec un entrepreneur. Ouais.
Ça, c'est bien.
Ouais. J'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin de cette reconnaissance. En fait, je suis casanier, mal à l'aise en public, j'ai pas beaucoup d'amis, je suis un peu planqué dans mon bureau derrière mon Zoom. Et en fait, pour moi, Zoom, c'est une bénédiction. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça. Mais paradoxalement, j'ai besoin de la reconnaissance, quoi. Et pas de la reconnaissance dans le sens, tu vois, combien de likes tu as ou combien de personnes t'ont vu ou je sais pas quoi, mais la reconnaissance sincère de gens qui te disent grâce à toi, j'ai progressé ou grâce à toi, j'ai avancé ou merci pour ton temps. Tu vois, la reconnaissance sincère. Donc ça, c'est mon besoin profond. Et ce besoin profond, je pense que j'arrive à le nourrir parce que, c'est pas j'analyse, mais quand je discute avec les entrepreneurs, avec les gens, je m'attache à qui ils sont profondément, quoi. Donc, je suis assez impatient comme garçon, je suis assez intolérant face au bullshit, je suis un peu direct parfois, mais ce que ça dénote, c'est que, en fait, moi, j'aime m'attacher aux choses sincères, aux choses vraies, aux choses profondes, et donc les gens, je les sens bien, je les sens vite, et c'est pour ça que je suis bon dans mon métier, tu vois. Un entrepreneur, je vois tout de suite sa singularité, je vois ce dans quoi il performe, ce dans quoi il performe pas, si sa vision est une vision clairvoyante, une vision pleine d'illusions, tu vois, si il est capable d'apprendre des autres, en même temps de faire des choix singuliers, s'il comprend que dans une entreprise, parfois faut que t'avances vite, parfois faut que t'avances bien, mais faire les deux en même temps, bah, c'est difficile. Et en fait, c'est ouais, cette capacité à sentir les gens, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui nous rapproche avec Xavier. Xavier, il a les trois quarts des gens avec qui il bosse, il les a embauchés après les avoir vus une heure, deux heures peut-être. Et donc, il a un instinct assez développé, quoi. Et moi, j'aime bien cet instinct sur les gens, quoi. Donc, je pense que c'est ça, le truc que je fais bien. Et après, l'esprit de synthèse. Voilà. Donc, prendre plein... Comme je suis...
Plein d'informations et réussir à en tirer un invariant commun ou un truc...
Ouais, et ça, c'est bon. Ça, c'est juste parce que je suis fainéant de nature. Donc, il fallait que je trouve un moyen. Et donc, la synthèse a développé. Mais ouais.
J'ai une question pour toi par rapport à tout ce que tu dis. Au final, on sent que l'humain, une fois de plus, c'est absolument fondamental. Et je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que t'as travaillé? Finalement, est-ce que c'est un talent, tu vois, juste, ben, il se trouve que t'aimes les gens, c'est comme ça, et du coup, tu les sens bien, t'as de l'intelligence sociale. Est-ce que c'est quelque chose que t'as cultivé, que t'as travaillé? Je te pose cette question parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui, bah, eux aussi se sentent un peu casaniers, etc. Peut-être qu'ils sentent aussi qu'ils arrivent à sentir les gens. Mais après, ils n'arrivent pas à en faire un talent tel que ça soit utile pour leur job. Alors qu'en fait, c'est absolument fondamental dans plein de métiers autres que, tu vois, l'investissement. Et je me dis, est-ce que t'aurais peut-être un conseil à donner? Puisque je crois dans la valeur du travail et je me dis que même si t'es naturellement doué, j'imagine que tu l'as cultivé. Qu'est-ce que t'as fait, si tu veux, pour en faire une telle expertise, quoi, d'une certaine manière?
Oh, wow. Alors d'abord, c'est né de mon introversion couplée avec des gens qui avaient confiance en moi et qui m'ont aimé, supporté, etc. Donc, ma mère, ma première copine, ma femme...
Tu te rappelles d'un moment, je suis désolé de t'interrompre, ouais, où on t'a tendu une main, on t'a donné confiance, c'est un moment marquant?
Mais en fait, les moments marquants ont commencé dès le CP. Donc, je faisais rien à l'école, je me faisais chier, c'était horrible, et je trouvais pas ma place. Et donc, je progressais de manière passable, avec 10 de moyenne chaque année, jusqu'à ce que je redouble la seconde quand même. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait la réunion parents-professeurs, je me rappellerai toujours. C'était toujours la même phrase qui revenait, quoi. Ma mère venait me voir et me disait « Bon, Jean, on a vu tes profs. Ils nous ont tous dit que t'étais sympa, t'étais intelligent, mais il fallait que tu bosses quand même. » Et donc, moi, à chaque fois, tu vois, et à chaque fois qu'il y avait des dîners avec les copains des parents qui venaient dîner, j'entendais en fond les parents ou les copains des parents qui disaient « Oh, il est sympa, ton fils. Oh, il est beau, ton fils. Oh, il est intelligent. » Et en fait, malgré le fait que rien ne marchait pour moi, tu vois, j'avais ces gens-là derrière qui, entre guillemets, me supportaient. Et en fait, c'est cette dualité qui a fait ça. C'est assez marrant. Donc, t'as une espèce de confiance implacable qui est derrière toi parce que t'as des gens qui disent des choses et ça reste et ça te réconforte. Et en même temps, t'es hyper introverti, casanier, t'as du mal à t'imposer en public, et t'aimes pas les conflits, tu vois. Et en fait, l'introversion, elle est née en CE2, quand j'ai un mec copain qui m'a dit « mes parents divorcent ». Et moi, devant toute la classe, j'ai dit « mais moi, mes parents, jamais ils divorcent, ils s'aiment trop, c'est impossible ». Et 15 jours plus tard, ils divorcent.
Horrible.
Donc ce genre-là, tu vois, t'as 8 ans, ta plus grande conviction, c'est ouais, cool. Ouais, c'est ça. Quoi. C'était pas marrant, mais c'était assez surprenant comme situation. Et c'est là que tu te rends compte que plein de choses t'échappent si tu regardes pas bien les situations. Même si t'as tous les éléments, en fait, ça sert à rien d'avoir tous les éléments si t'es pas en mesure de les recevoir. C'était une bonne leçon, ça. Et donc, pour les entrepreneurs, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est hyper difficile de modifier son mindset. Et même quand tu penses, même quand tu agis, quand tu réfléchis aux choses pour agir. Je pense qu'on a un cerveau beaucoup trop riche et la manière dont on interprète ces informations beaucoup trop pauvre, tu vois. C'est comme si tu avais, un ordinateur, entre guillemets, super puissant avec un logiciel de merde, quoi. Ben nous, en fait, on est un ordinateur super puissant avec un logiciel un peu de merde.
Ouais, c'est ça.
Et tu vois, les gens disent oui, on n'utilise que 5% ou je ne sais pas combien de pourcents de notre cerveau. En fait, ben pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas capable d'en utiliser plus, tu vois.
Ouais, c'est que le hardware, les yeux, la bouche, le nez ne sont pas hyper.
On n'est pas super bon, en fait. Ouais. On est assez mauvais. Et donc, si on est assez mauvais, moi, je pars du principe qu'on est assez. Tu vois, on est des animaux, on est un peu primitifs. Et donc, si tu veux changer, si tu veux progresser. Travaille sur la mécanique, sur les choses, tu vois. Donc, la mécanique, c'est te lever tous les matins à la même heure, te rendre compte que finalement, tu es plus efficace le matin, donc bosser le matin sur les tâches qui demandent de la concentration, qu'au bout d'une demi-heure de call, finalement, bah, tu es plus très concentré, alors ne fais qu'une demi-heure de call, que dans telle situation. Et en fait, tu fais des améliorations mécaniques liées à la manière dont tu réagis aux choses. Et en fait, toutes ces améliorations mécaniques vont t'aider à changer ton mindset à mesure que le temps passe. Donc moi, j'invite surtout pas les entrepreneurs à essayer de modifier qui ils sont. En fait, tu modifies pas qui t'es. En revanche, tu peux travailler sur tes forces et tes faiblesses pour pouvoir agir, quoi. Donc moi, par exemple, j'ai une tendance à penser à plein de choses et à refaire d'autres choses à la fois que je fais quelque chose, etc. Quand je vais faire mes emails, je vais enlever toutes les notifications partout. Je vais descendre mes emails et je vais ne faire que ça. Les 5 premières minutes sont un peu douloureuses, puis après t'es dans le flow et puis ça déroule, quoi. Et tu termines. Tu te rends compte que t'es beaucoup plus efficace. Je me suis rendu compte que j'étais plus efficace le matin, donc aucun rendez-vous le matin. Je me suis rendu compte que 45 minutes de rendez-vous, une heure de rendez-vous, c'était trop, que 30 minutes, ça permettait de créer un peu de tension dans le meeting qui faisait qu'on arrivait à l'essentiel. Mes meetings durent une demi-heure. Que à partir de 18h, j'étais une lock, donc je fais plus de rendez-vous à partir de 18h, etc., etc. Et en fait, mis bout à bout, quand t'as 10 ou 15 choses mécanique que tu as créé, en fait, tout se met en branle, quoi. Tout change.
Mais avec une bonne dose de lucidité, quand même. Parce que justement, tu mets en place des process, des mécaniques, comme tu dis, parce que tu as quand même suffisamment de recul. C'est marrant, parce que tu as le recul à la fois sur toi-même, mais aussi en tant qu'investisseur, ton job, finalement, c'est d'avoir du recul pour les entrepreneurs qui sont méga nés dans le guidon.
Tout à fait. Ouais, tu as un sujet de clairvoyance. Et les gens, d'ailleurs, qui font pas preuve de clairvoyance, je sais pas comment tu débloques ça chez eux. Honnêtement, je pense que ça passe nécessairement par changer complètement d'environnement. Parce que ce qui fait que les gens changent, c'est soit parce qu'ils font des améliorations graduelles de manière mécanique sur ce qu'ils réalisent et donc ça change leur mindset, soit c'est parce qu'un drame leur arrive.
Ouais.
Tu vois. Et donc, la question, c'est comment est-ce que tu reproduis ce drame sans que ce soit dramatique ? Bah, peut-être par te dire, alors c'est horrible, hein, j'invite pas les gens à faire ça, mais tout quitter et partir au bout du monde. Ou alors t'arrêter et faire autre chose. Mais avec la volonté de savoir pourquoi tu le fais. Le nombre de gens qui disent « Oh, je vais partir en Australie pendant un an, faire autre chose », et qui ne savent pas pourquoi ils le font, ils reviennent, ils sont encore pires que quand ils sont partis, quoi. Ils sont fucked up. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi. Mais je pense que c'est peut-être une solution.
C'était déjà arrivé, t'es pas obligé de me citer un nom, mais de devoir un peu choquer quelqu'un parce que justement, tu voulais lui faire passer un message dans le cadre de ton job. Tu dis, bah, en fait, là, par exemple, on va dans le mur sur ce point parce que tu gères mal. Je sais pas, t'es hyper mauvais en teamwork et t'as besoin de progresser sur ce skill set ou au moins de t'entourer de personnes qui sont bons. Est-ce que t'as eu finalement quelqu'un qui n'était pas suffisamment à l'écoute, qui n'arrivait pas à se remettre en cause? C'est fréquent parfois. Et donc, t'as été obligé d'user de techniques un peu de choc comme ça?
Très souvent.
Ah ouais.
Et je le fais très souvent d'ailleurs.
Et tu fais quoi alors ?
Bah, généralement, d'abord, c'est est-ce que l'atmosphère est une atmosphère de confiance ? Si t'as pas d'atmosphère de confiance, tu peux pas dire les choses franchement aux gens. Et ensuite, c'est un déroulé. Tu vois bien, quand tu coaches les gens, je divise ceux qui accompagnent les entrepreneurs et les gens en général en trois, quoi. Les advisors, les mentors et les coachs. Donc, les advisors, ils te disent quoi faire. Les mentors, ils te donnent un regard de leur expérience sur la tienne pour que tu puisses avoir un prisme. Et les coachs, ils t'aident à trouver la réponse par toi-même. Et en fait, le coaching marche mieux que le reste parce que le coaching, c'est toi qui fais le travail. Tu vois, c'est pas le coach. Et donc, quand tu vas dire des vérités qui sont difficiles à entendre pour un entrepreneur, en fait, c'est vraiment un travail où tu dois donner l'information par petites gouttes en prenant le temps pour qu'ils la reçoivent et qu'ils puissent effectivement recevoir l'information. Donc, Je vais te donner un exemple. Tu as un entrepreneur chez nous qui est plutôt tendance très optimiste et qui en même temps est très, 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 très fort. Et en fait, il est trop fort, il ne s'en rend pas compte. Et donc, il met une dose d'optimisme, de confiance vis-à-vis de ses équipes qui est beaucoup trop importante par rapport à leur capacité. Et notamment avec ses cofondateurs. Et c'est une erreur, en fait. Il leur fait confiance, non, mais t'inquiète pas, il est bon et tout. Moi, mon job, c'est de dire, en fait, tu ne te rends pas compte. Tu n'es pas au même niveau qu'eux. Et tu leur donnes des exemples, tu vois. T'as fait ça, 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 ça. Est-ce que tu penses que cette personne aurait fait ça? Ah non. Donc, tu vois, déjà, tu sais, déjà, t'as vu la différence. Tu vois que t'es meilleur qu'eux. Du coup, est-ce que ton intérêt, c'est de leur donner pleine confiance? C'est de les accompagner dans le fait de s'améliorer et de s'approcher de ton niveau, même s'ils ne l'atteindront jamais. Et tout d'un coup, tu vois, avec des éléments cognitifs comme ça, la personne comprend la situation dans laquelle elle s'est mise, ce qu'il faut qu'elle commence à faire, etc. Donc, c'est toujours du dialogue, jamais un mot au-dessus de l'autre, et puis donner du contexte, de l'information pour que l'information soit perçue, quoi. Mais l'horreur, c'est quand tu émets un jugement sur quelqu'un sans rien, quoi, sans matériel.
Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai plein d'autres sujets que je voulais aborder avec toi. Ouais. Et notamment, il y en a un qu'on a évoqué juste avant de commencer, c'est que tu m'as dit que j'ai le droit d'en parler, que tu avais déménagé à Aix. Ouais. Je trouve ça trop cool. Et surtout, je trouve ça très cool parce que je peux imaginer que tout le monde là qui nous écoute se dit, mais attends, Jean, il bosse comme un chien à Paris, jamais de la vie, il a le temps de partir à Aix. Et pour autant, apparemment, tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a motivé ce choix? Et puis, comment tu t'organises au quotidien du coup pour vivre ça?
Alors d'abord, donc bosser, c'est toujours quelque chose de relatif. Hein. Comment est-ce que les gens passent 10 heures de leur journée? Tu vois, il y a des gens, tu prends les mêmes et tu fais une réglette, t'en as qui sont à 1 sur 10 et d'autres à 10 sur 10. Quoi. Donc les magnitudes sont énormes. Nous, ce qui s'est passé pendant le confinement l'année dernière, c'est que donc on a 3 enfants qui ont 11, 9 et 7 ans. Donc tu vois qu'ils sont encore en jeune âge. Ma femme travaille pas. Moi, j'ai un métier où je bossais déjà tous les matins chez moi.
D'accord.
Pas au bureau. Et tous les mercredis complètement à la maison. Donc moi, mes rendez-vous n'avaient lieu que déjà le lundi après-midi, le mardi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi. Et certains d'entre eux, beaucoup en Zoom, pour les entrepreneurs qui sont aux US, au UK, dans le reste de l'Europe, on prend pas l'avion pour faire un meeting. Moi, je prenais déjà pas l'avion pour faire un meeting, ouais, tu vois. La moitié de nos deals se faisait déjà à distance. Donc le Covid, ça a pas fondamentalement transformé la manière dont on fait le métier. Et donc, au moment du Covid, on s'est dit, mais en fait, combien de temps ça va durer? Et est-ce qu'on retourne à Paris dans notre appartement qui est pas très grand, ou est-ce qu'on décide de prendre un risque, sachant que, et ça, je reviens sur une interview qui avait été donnée hier par le fondateur de Spotify, qui est assez intéressante, et ça revient aussi à ce que disait Jeff Bezos à ses équipes dans une shareholder letter il y a longtemps, c'est le principe de réversibilité des décisions. Les 3/4 des décisions que tu vas en prendre sont réversibles. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de les prendre? Pas grand-chose. Donc, nous, on s'est posé la question, c'est quoi les paramètres? Bon, d'abord, si tu déménages de la ville pour aller ailleurs, il faut que tu aies un confort de vie qui soit différent. Ensuite, quelque chose qui est formidable, quand tu vois que tu prends le TGV et que tu descends sous Lyon, c'est la luminosité. Quoi. Et cette lumière, elle est incroyable. Et cette lumière, les Bordelais vont m'engueuler, mais tu l'as pas à Bordeaux. tu l'as pas à Bordeaux. Bordeaux, c'est beaucoup plus parisien comme ambiance, finalement, en termes de gris, de gris, quoi. Les couleurs de gris sont magnifiques, hein, mais c'est Bordeaux.
On aime beaucoup Bordeaux.
Voilà. Et donc en dessous de Lyon, tu as cette luminosité incroyable. Ensuite, il fallait une école internationale pour les enfants, pour qu'ils continuent à être élevés dans un environnement cosmopolite. Et puis 4, la convenience de pouvoir revenir à Paris hyper simplement. Moi, si Xavier m'appelle, me fait un texto à 11h et me dit « Jean, est-ce que tu peux venir à un rendez-vous à 14 ?»
C'est possible, ouais.
Oui, c'est possible. Il faut que soit que je puisse prendre le train immédiatement ou l'avion immédiatement. Donc nous, on est à 7 minutes de la gare d'Aix-TGV, à 15 minutes de la gare de Marseille. Et la dernière fois, quand j'ai raté mon train, j'ai pris un taxi, je suis allé à Orly, j'ai pris des miles. Et pour 40 balles, j'étais de retour chez moi à Aix à la bonne heure, quoi. Donc, c'était les 4 éléments, quoi. Le soleil, la qualité de vie, l'école internationale et la convenience de pouvoir aller à Paris. Et moi, je suis à Paris entre 2 et 3 jours pleins par semaine, ce qui est autant, en fait, que le temps que je passais au bureau quand j'étais à Paris. Et après, si on se rend compte que c'est pas possible, tu vois, d'un point de vue logistique et tout, on reviendra à
Paris. Ouais, c'est pas définitif, quoi. Bien sûr.
C'est rien, tu vois, c'est... Alors, au début, on s'était dit, on va louer parce que en louant une maison, c'est plus simple. T'as l'optionnalité de pouvoir partir comme ça. Et en réalité, bon, avec ça, rien à louer. C'est horrible. Donc, ça a été un peu la croix et la bannière l'été dernier pour trouver une maison, quoi. Mais c'est extraordinaire, tu vois. Et moi, les enfants, je triche, mais les enfants, maintenant, comme ils partent à l'école à 8 heures, avant, moi, je commençais à bosser plutôt vers 9 heures après les avoir déposés à l'école. Maintenant, je bosse à 8 heures. Je suis trop content de bosser plus tôt.
On parle un peu du Covid et tu t'es dit, fondamentalement, ça n'a pas changé, toi, ton métier, à part ce déménagement. Est-ce que quand même, au niveau peut-être, du coup, par contre, des tendances d'investissement que tu vois, des deals que tu reçois, enfin, pas des deals que tu reçois, pardon, des decks que tu reçois tout le temps, tu vois de nouvelles tendances. Alors, évidemment, tout ce qui est vidéoconférence, remote work, je peux imaginer, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de en quoi, pour toi, dans ton expertise, qui est l'investissement de start-up, le Covid a changé le flux, si tu veux, de deals que vous recevez?
Alors, ça n'a pas fondamentalement changé les sujets, parce que les sujets sont toujours les mêmes et sont adressés. En revanche, ça a changé drastiquement la manière dont les entrepreneurs s'organisent dès le premier jour. Parce que quand tu t'organises en remote first, en fait, c'est pas la même que quand tu as un bureau. Au début, quand tu as un bureau, tu es 10, tu peux la jouer freestyle, tu vois. Tu peux apprendre et tu peux essayer d'apprendre à t'organiser beaucoup plus tard. Mais quand tu es en remote, en fait, si tu n'as pas des principes de l'organisation...
Une culture aussi.
Ouais, tu vois, une culture super forte et des... Bon, en fait, t'es foutu. Donc nous, les entrepreneurs, ce qu'on a constaté, c'est, entre guillemets, grâce au Covid, ils ont créé des principes d'organisation et de culture au sein de leur boîte beaucoup plus tôt, beaucoup plus robustes. Et ça, c'était assez incroyable. Et ensuite, ce qu'on s'est rendu compte aussi, et c'est là que tu vois la qualité des entrepreneurs, c'est que face aux emmerdes, ils sont quand même vachement forts, tu vois. En fait, c'est horrible, mais un entrepreneur, ça
aime les emmerdes.
C'est quelqu'un, tu l'asperges de mazout et en fait, il essaye de s'envoler encore plus fort et il y arrive, tu vois. C'est un truc de dingue. Ça nous a... qu'est-ce qu'on a eu peur en mars-avril l'année dernière. Putain. Je me rappelle, j'envoyais des mails à Xavier en disant « Attention, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va être horrible. Ouais. » Tu vois, genre, je prépare le terrain pour l'horreur qui est arrivée. En fait, pas du tout. Et moi, j'avais peur parce que notre petite boîte, tu vois ce qu'elle allait devenir. Et en fait, 2020 a été bien meilleur que 2019 en termes de performance et de qualité des deals. Et 2021, on n'en parle même pas.
Et comment tu l'expliques? Parce que c'est marrant parce que moi, mon histoire avec Gemio, c'est la même. C'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, 2019 était une année correcte et 2020, paradoxalement, a été une très bonne année. Alors même qu'on s'est pris quand même moins 80% de croissance sur mars-avril, parce que tout était fermé, que nos ateliers étaient fermés. Et là, 2021 s'annonce très bien. Et je t'avoue que moi-même, je ne l'explique pas, si ce n'est que, en fait, je pense que face à la situation catastrophique, on a fait des miracles, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait des choses qu'on n'aurait jamais faites, je pense. Et on a complètement repensé notre stratégie et je pense qu'on en voit les effets maintenant. Et je voulais savoir si toi, avec ton recul, surtout vu le volume de personnes que tu peux voir, est-ce que tu arrives à expliquer comment est-ce que c'est possible que malgré, tu vois, une année 2020 où globalement il y a eu, alors ça dépend des secteurs, mais dans certains cas, dans le prêt-à-porter et tout, des effondrements complets du chiffre d'affaires pendant 2 mois, comment ça se fait qu'au final, l'année pour beaucoup de startups se passe plutôt bien?
J'ai l'impression qu'il y a eu 2 extrêmes qui se sont cumulés, qui sont composés ensemble. Le premier extrême, c'est que comme on a vu la fin du monde arriver, on a démultiplié nos efforts. Et probablement de manière totalement démesurée par rapport en fait à la réalité de la situation.
Oui, c'est ça.
Et de l'autre côté, tu as eu un déport énorme, et c'est horrible, mais de tout un pan du marché traditionnel, qui en fait a laissé sa place au digital de manière extraordinaire. Donc, je ne sais pas comment ça s'est matérialisé chez vous, mais avant, tu faisais du lèche vitrine au Galeries Lafayette.
Ah, là,
tu t'achetais, un bijou. Et puis là, en fait, tu passes plus de temps sur ton écran. Et puis, tu tombes sur, tu vois la nouvelle collection de Gemio et tu dis « Ah, c'est cool !» Et tu te dis pas « Oh non, tu sais, l'internet, pas trop, je vais quand même aller aux galeries, quoi. » En fait, t'as plus le choix maintenant. Soit tu te dis « Ah, je vais craquer, ça te craque pas, quoi. » Et donc, on a eu ces 2 déports, quoi. Déport digital énorme d'un côté, et puis avec les entrepreneurs qui se sont dit « Ah, c'est la fin du monde !» et qui ont déployé des efforts démesurés, quoi. Et j'ai l'impression que les deux ont créé cette... tu vois, la qualité de la... Enfin, tu vois, des croissances incroyables en 2020.
C'est clair. Au niveau des thématiques, tu m'as dit, ça n'a pas énormément évolué. C'est-à-dire, tu vois, la fintech, toujours très, très en vogue, évidemment. Enfin, t'as pas vu de nouvelles tendances qui émergeaient avec cette année vraiment hyper juste nouvelle, quoi?
Pas trop. Évidemment, t'as une grosse tendance. En fait, bon, d'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que dès que tu as une startup qui se crée dans un domaine qui te semble nouveau, tu en as 10 qui se créent au même moment. Donc, fin 2019, début 2020, c'était toutes les apps sociales autour de l'audio. Tu as Clubhouse, tu as Cappuccino, tu avais Storm, tu en as 10 qui se créent, voilà. Tu vas voir que 2021, tu vas avoir 20 startups dans l'énergie électrique qui vont être financées. Parce que tous les constructeurs ont sorti des bagnoles, tout le monde achète de l'électrique et tu n'as pas un parc convenable pour charger les bagnoles. Tu vas avoir 15 boîtes de chargeurs de bagnoles dans l'année qui vient. Et donc, on voit des trends comme ça. 2019, c'était Travel Tech. Tu avais un nombre de boîtes dans le travel énorme. Et en fait, nous, on n'est pas du tout drivé par des thèses. C'est plutôt, à un moment donné, on voit des trends émerger et donc on se décide de les saisir ou pas, quoi. Par exemple, on n'a jamais saisi le trend de l'intelligence artificielle au sens large, parce que c'est comme une app et on ne s'est pas dit que c'était utile. En revanche, Travel Tech, on a vu plein de trucs sortir. Mobile Consumer Audio plein. Tout ce qui est tech lié au climat, on n'en parle pas. T'en as, tu vois, depuis un an, ouais. C'est dingo. Et donc voilà. Après, tu as des accélérations. Climate Tech, c'était en train de monter. Le Covid a accéléré. Les trucs liés, enfin tous les outils de pour travailler en remote ou travailler mieux à distance, c'était déjà là, mais ça s'est accéléré. Donc tu as des accélérations, mais fondamentalement, t'as pas quelque chose de fou, tu vois, qui a émergé que t'aurais pas imaginé avant, quoi.
Et ça, en tant qu'investisseur, est-ce qu'il est important pour vous, c'est peut-être une évidence, hein, ma question, de se positionner au début de la vague, ou est-ce que au final, pour toi, si tu sais qu'il y a un fondamental qui est solide, que ça va venir à un moment donné, bah en fait, tu le mets et t'attends le temps qu'il faut. Ma question, c'est du coup, est-ce que le timing, c'est vraiment fondamental pour vous?
T'as deux choses. À quel stade toi tu te positionnes en tant qu'investisseur? Nous, on se positionne au stade early, donc il faut qu'on les chope tôt, les boîtes, on est obligé. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le first mover advantage et le last mover advantage. Tu vois, tu as des marchés qui sont pas matures et en fait, le time to market est pas bon ou est trop un chouille trop tôt. Et en réalité, tu dis « Oh, c'est un trend énorme, faut qu'on y aille. » Et puis, tu te réveilles 18 mois plus tard avec la gueule de bois parce qu'en fait, le timing n'était pas bon, quoi. Et donc, tu as une deuxième vague de boîtes similaires qui émergent un peu après et qui, elles, vont cartonner. Et Airbnb était un parfait exemple de ça. Des boîtes qui faisaient... Il y avait une boîte aux US qui s'appelait VRBO, Vacation Rental by Owners. C'était énorme. C'était Airbnb avant Airbnb depuis bien longtemps. HomeAway déjà existait.
Ouais.
Airbnb a tué le game. Mais parce que le time to market était parfait. Zenly, quand ils sont sortis en 2015, ça faisait 7 ans qu'on voyait des boîtes de géolocalisation... sortir sur les stores tout le temps et ne jamais marcher. Et là, tu étais à un moment de frémissement en termes de tech qui permettait de fournir un service vraiment reliable aux utilisateurs qui a fait que ça a fonctionné. Ils auraient lancé 2 ans avant, ça ne marchait pas. Ils auraient lancé 2 ans après, c'était trop tard.
C'est pour ça finalement que les entrepreneurs, ils doivent s'accrocher et c'est pour ça que la persévérance est aussi importante.
Bah, la résilience est essentielle parce que être... Regarde, une boîte, tu vois, Opin, c'est pour créer des événements... en ligne.
D'accord.
Donc des gros événements. Tu veux refaire Vivatech en ligne, tu utilises Hopin. Hopin, ça a été financé fin 2019. Il n'y avait pas le Covid. Hein. La boîte, l'année dernière, a fait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent. C'est la plus grosse croissance jamais vue d'une boîte tech en Europe depuis 20 ans. Il faut avoir un peu de bol quoi, dans la vie. Donc là, en termes de timing, c'était parfait. Mais ils auraient pu galérer pendant 2, 3, 4 ans peut-être avant. Et donc ouais, la résilience elle est importante parce que de temps en temps ton time to market il est décalé. Et d'ailleurs la raison, il y a un truc qu'on regarde avec les entrepreneurs, c'est la différence entre la folie et la stupidité. La stupidité c'est quand t'avances sans te poser la question pourquoi. La folie c'est que tu continues de t'accrocher. Ça reste un peu démesuré, mais au moins tu sais pourquoi.
Donc on préfère la folie à la stupidité.
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Écoute, je retiens ça. Jean, je vois que le temps passe et je vais être respectueuse.
Désolé, je suis un peu verbeux.
Mais pas du tout, je vais être respectueuse de ton temps. Il y a juste un point que je voulais aborder avec toi avant de terminer par le crible du gratin. C'est, et je veux pas que tu le prennes mal du tout. Au contraire, pour moi, c'est un point positif. C'est ta marque personnelle. Ouais. Parce que moi, j'estime que t'as une marque personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que t'es un peu un espèce d'ovni. T'es à part, c'est mon regard extérieur hein, dans le monde de la tech et je trouve que c'est intéressant, on revient tu vois à cette idée de notamment le financier normalement réservé, notamment un petit peu distant, pas très humain, et toi en fait qui a en fait ta personnalité propre. Et du coup je voulais te demander si le fait que tu sois aussi communicant sur plein de médias traditionnels, BFM qu'on aime beaucoup, le gratin, tous ces médias, tu vois, j'ai vu que tu étais vachement présent sur Clubhouse là. En fait, est-ce que ça fait partie de la job prescription finalement qui est que ben tu as besoin aussi de te faire connaître pour pouvoir attirer des talents? Quel a été si tu veux l'enjeu sous-jacent et la stratégie qui fait que tu as dû t'as dû ou tu as choisi de développer ta marque personnelle. Est-ce que c'est juste une histoire?
Alors, comme on en revient... égoïste.
J'allais te dire, est-ce qu'on en revient au début au fait que t'avais juste besoin d'un peu de reconnaissance ou en fait pas du tout?
T'as forcément un bout de ça, tu vois, ce serait complètement mentir de pas dire ça. Mais le premier élément, c'était un élément égoïste. C'était que et ça a commencé un peu avant The Family. Quand j'ai aidé des entrepreneurs, il y avait des concepts qui commençaient à émerger et j'avais besoin de les mettre au clair. Et en fait, je ne pouvais pas juste les garder pour moi. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et tu vois, je dois avoir plus d'une centaine ou 200 blog posts. Et en fait, c'est à chaque fois des choses auxquelles je réfléchissais. Et puis au bout de 10 jours, à force que ça me gratte la tête, je le mets par écrit. Je l'expulse, je peux passer à autre chose. Et donc, ça a commencé comme ça. Et quand je viens chez toi ou que je fais une interview, pour moi, c'est l'occasion de prendre le temps, tu vois. Parce que le reste du temps, je ne le prends pas. Je suis plutôt tendance efficace à faire les choses vite, à passer une chose à une autre et tout. Et en fait, ce moment pendant une heure pendant lequel je n'ai pas regardé les notifs, pas les emails, tu vas me poser des questions auxquelles je ne m'attends pas et qu'on me force à réfléchir, je te dis « Ah, ça, c'est cool !» Tu vois, c'est une bonne chose. Et après... T'as le paradoxe du fait que je suis assez direct et que je dis ce que je pense et que je peux être assez expansif parfois sur mes opinions. Et en même temps, le piège que ça peut être perçu comme de l'arrogance ou je ne sais quoi. Et j'ai malheureusement cette critique parfois. Et tu vois, c'est une opportunité pour moi aussi de remettre les choses dans leur contexte et que les gens comprennent réellement ce qu'il y a derrière et qu'ils ne soient pas juste, qu'ils ne soient pas arrêtés sur une ligne dans un article ou sur une vidéo que j'avais faite à l'époque, où j'avais été un peu vindicatif sur un sujet, et ils se disent « Mais c'est qui ce connard ?» Tu vois, en fait, j'ai pas envie de laisser cette image-là. Donc, chaque opportunité de redonner du contexte pour que... Et c'est ce besoin de reconnaissance, tu vois, encore, qui s'exprime, est important.
Ouais, et avoir de l'impact aussi. Alors, au travers de ce que tu fais dans tes deals, mais je pense que tu peux en avoir aussi via l'aide que tu donnes gratuitement, finalement, à plein d'autres personnes qui font partie de ton audience maintenant.
Oui, bien sûr. Après, il y a plein de choses que tu dis qui en fait ont été dites mille fois
bien
par
sûr,
l'autre. Donc t'étais juste un,
tu vois, un ouais, médium. Ouais, mais tu sais, d'un autre côté, c'est comme les bons bouquins. Tu sais, parfois tu lis et puis t'en retiens un truc, tu le relis derrière d'une, c'est, tu vois, c'est autre chose. Donc
ouais, c'est vrai.
Écoute, Jean, merci en tout cas pour ton temps et puis toute ton honnêteté, ta vulnérabilité peut-être. Je termine maintenant le gratin par ce que j'appelle le crible. En gros, c'est des questions que je pose un peu à chaque fois, qui sont des questions un peu perso. Et je me suis rendu compte que je ne te les avais pas posées la première fois, puisque t'étais l'épisode numéro 5.
Merde, du coup, je sais pas ce que tu vas me poser comme question.
Et non, et
aïe,
non.
Aïe, 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 aïe.
Alors la première, bon, elle est un peu basique, mais je la trouve toujours intéressante, c'est est-ce qu'il y a un grand échec dont tu pourrais me parler, te concernant, qui est un échec, si tu veux, comme on dit en anglais, a blessing in disguise, c'est-à-dire finalement une bénédiction cachée, qui t'aurait appris quelque chose, finalement, dont t'as tiré un enseignement particulier.
Ouais, alors il y a un, puisque le piège c'est que je suis plutôt de nature optimiste, donc il y a pas grand chose qui me blesse, tu vois, les choses glissent un peu sur moi. Quand j'ai des problèmes, je regarde si c'est des problèmes qui sont graves ou pas, tu vois. Si je veux pas mourir, c'est pas très grave. Donc j'ai pas eu de grandes blessures. Moi j'ai un esprit très compétitif, donc je déteste perdre et ça me rend dingue. Et je suis plutôt angoissé par les petites merdes que par les grosses merdes. En fait, les gros trucs me dérangent pas trop. C'est les petits trucs qui m'énervent, tu vois.
Bah, t'es pas obligé, tu sais, tu peux me dire que tu n'as pas, c'est pas que t'as pas vécu d'échec, mais c'est que tu l'as pas vécu comme un échec.
Non, mais des échecs, si tu veux, j'en vis plein. Le nombre de deals que je fais qui se plantent, il y en a tellement, les choses sont beaucoup plus longues que ce que t'espères. Il y a cette phrase de Bill Gates, c'est on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime les résultats que ça peut générer en 10. Ouais, je suis un impatient. Mais non, j'ai pas de gros échecs qui me marquent, quoi. Peut-être que c'est un déni de ma part, faut que je réfléchisse, mais...
Tu me tiendras au courant. Tu me tiendras au courant, ouais, tu me diras si t'as trouvé ça. Écoute, je te souhaite que ça ne te soit jamais arrivé.
Ouais, ouais. Après, il y a plein de risques que j'ai pris.
Alors vas-y, dis-moi le risque le plus fou que t'as pris.
Ah, le risque le plus fou, c'était septembre 2013. J'avais mon job de leveur de fonds. J'étais bien payé. C'est un métier que je savais bien faire, dans lequel, tu vois, je voyais je savais exactement comment est-ce que ça allait continuer, mais c'est pas ce que je voulais faire fondamentalement. Je voulais faire de l'amorçage. Mon rêve, c'était de m'occuper des investissements start-up de Xavier Niel à l'époque, en me disant que j'aurais jamais ce job, comme quoi. Et en fait, j'ai contacté tous les investisseurs de la place, qui m'ont gentiment envoyé bouler, et j'ai démissionné pour partir chez The Family, sachant que je savais qu'ils n'avaient pas de quoi me payer 3 mois après. que ma femme ne travaillait pas, qu'elle était enceinte du troisième enfant et qu'on avait l'empreinte de l'appart sur le dos qui était assez costaud. Et quand j'ai pris ce risque, je l'ai pris de manière complètement démesurée parce que j'ai pas dit à ma femme « Ah, je vais faire ça » et au fait, ils n'ont pas de compagnie entre moi. Je me suis, et donc ce jour-là, j'ai pris un risque qui était important, c'est-à-dire que le risque de partir dans une entité qui potentiellement pouvait échouer et deux, prendre le risque de t'enfermer dans le fait justement de pas montrer cette vulnérabilité à l'autre et donc tu vois, de tenir cette pression juste pour toi pour pas qu'elle se diffuse dans le foyer quoi. Ça, c'était assez difficile ça pendant quelques mois.
Je peux imaginer. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être stylistique.
J'apprendrai la rigueur à l'école.
T'apprendrais la rigueur à l'école? Ouais. Parce que tu l'as apprise plus tard.
Non, je ne suis pas rigoureux, je ne le serai jamais, c'est fini pour moi. C'est trop tard, c'est peine perdue. Mais tu vois, je vois comment ma femme, pour le coup, est très rigoureuse. Nos enfants, tu vois, ils parlent français, anglais, chinois, ils font de la guitare, du piano, ils sont bons à l'école et tout. En même temps, ils jouent à Fortnite sur leur Switch, ils font les cons, voilà. Mais en fait, tu vois, au début, tu vois, tu leur disais, ah, il faut que tu fasses ton cours de chinois, et t'es là, ah non, j'ai pas envie. Et en fait, à force de leur donner l'habitude du travail, bah maintenant, ils ont eux-mêmes développé leur modèle mental qui fait qu'ils vont y aller sans broncher, ils vont le faire, ils vont bien le faire. Et en fait, tu vois, je vois cette mécanique qui s'est créée chez eux. Je me dis, putain, ils ont du bol quand même.
Ouais, mais d'un autre côté, tu me dis souvent que c'est parce que t'es flemmard que t'arrives à aller très vite droit au but, tu vois.
Bah oui, tu trouves des excuses, hein. Ouais, si tu veux, je peux t'en donner plein. Je peux te donner tous mes défauts et tous les paradoxes positifs que ça crée, hein, si tu veux. Hein. Tu vois, ma flemmardise crée de la synthèse, mon impatience fait que je vais à l'essentiel, mon intolérance fait que, je sais pas, tu vois, je peux t'en donner plein. Mais ouais.
Je note en tout cas la rigueur. Une maxime, des mots de sagesse, un message que t'aimerais partager avec l'audience du gratin. Une citation qui te plaît particulièrement, si tu veux.
Celle que je te donnais juste avant, qui est on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10.
Et ça, tu l'as beaucoup constaté. T'aurais un exemple?
Donc, 100% de nos boîtes, en fait, 100% de nos boîtes. Pas un exemple précis, mais moi, dans ma carrière, ça c'est beaucoup... En fait, le fait d'être patient, d'être long, j'en tire les fruits aujourd'hui. Tu vois, et ça a pris du temps, quoi. Mais il fallait être patient, c'est bien. Tu vois, ça fait 10 ans que j'ai... Donc, cette année, j'ai 38 déjà, putain. moi, j'ai commencé à bosser tard, j'avais 25. Et à partir de 28, je savais à peu près ce que je voulais faire. Et en fait, tu vois, je suis resté patient, quoi. Ça prend du temps et je vais encore rester patient, tu vois. Là, je m'attaque pour les... Là, j'attaque les 10 prochaines, là.
T'en es au début, là.
Ouais, tout début. Je trouve ça passionnant.
Question que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a une croyance que tu as, tu vois, un belief, comme on dit, qui est controversé et que tu pourrais nous partager. C'est-à-dire quelque chose auquel tu crois et tu te rends compte que la plupart des gens sont plutôt pas d'accord avec ça.
Il faut pas être un bon entrepreneur pour être un bon entrepreneur. En fait, t'as cette tendance, il y a plein d'entrepreneurs que je vois qui sont bourrés de singularités un peu spéciales et que des investisseurs vont dire « mais il est pas bon là-dessus, il est pas bon sur ça, regarde, là il a manqué de clairvoyance, ou là de diligence, ou là de sérieux. » Et en fait, c'est parce qu'ils sont spéciaux qu'ils ont réussi à craquer quelque chose dans leur domaine, quoi. Et moi, j'en ai quelques-uns dont je vais pas parler aujourd'hui parce que j'aimerais donner leur nom, tu vois, quand ça va cartonner, mais en fait, tu vois, je repense au succès de Zenly, tu vois, le succès de Zenly est très lié à la personnalité, à l'obsession, évidemment, d'Antoine Martin pour la géolocalisation très tôt. Dès la sortie de Foursquare en 2009. Et donc, c'est ça qui a commencé à l'obséder. Et tu vois, 6 ans après, c'est à ce moment-là qu'ils sont sortis Zenly. Donc, il a fallu du temps, tu vois, pour que le time to market soit bon. Et en même temps, ce garçon est bourré de singularité, quoi. Et dans un contexte peut-être classique, tu dirais, à l'époque en tout cas, pas aujourd'hui, parce que maintenant, il a acquis de l'expérience, mais tu dirais, est-ce que j'ai envie de financer un entrepreneur comme ça, en fait, je sais pas. Et moi, j'aime bien les entrepreneurs qui ont un twist, qui font que ça rend les autres investisseurs défiants ou ils se posent des questions ou ça les dérange. Et en réalité, c'est parce qu'ils ont ce twist que leur boîte va être exceptionnelle. Tu vois, Daniel Ek, il fait pas rêver. Hein.
Oui, c'est le mec de Spotify.
Daniel Ek, le mec de Spotify, tu le regardais dans ses interviews il y a 10 ans, il fait pas rêver du tout. Mais il y a un truc spécial chez ce mec-là. Et ça, on le sous-estime. Donc moi, j'aime bien, tu vois, financer des gens qui sont que la majorité a pas envie de financer.
Et enfin, une question que je t'avais posée la dernière fois, mais du coup, peut-être qu'elle a évolué. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que t'as envie de recommander autour de toi? Un livre, tu vois, il peut en avoir deux, il peut y en avoir trois, hein, mais un livre vraiment important pour toi, Jean, qui a un peu fait la personne que tu es devenue.
Moi, j'ai honte, hein, j'ai commencé à lire très, très, très tard. Hein,
t'inquiète
donc,
pas.
Voilà. Et le premier
mieux tard
livre,
que jamais.
Ouais, et le premier livre qui m'a, et le premier livre qui m'a redébloqué de la lecture, c'était pas le plus facile, c'était Le Problème Spinoza, et qui s'attaque au sujet de la spiritualité, au sens large. Et j'ai bien aimé, parce que moi, je crois au mystère, mais je crois pas à la religion. Et d'ailleurs, tu vois, mes enfants me disent « Ah, mais alors, Dieu, mais ceci, mais cela. » Et je leur dis « Tu sais, si tu savais ce qui se passe, si tu connaissais la vérité sur le mystère, tu verrais pas ta vie comme tu la vis aujourd'hui. Il faut que tu acceptes en réalité que quelque chose t'échappe. Et ne cherche pas à attraper ce truc qui t'échappe. Tu l'attraperas pas, tu vois. Profite de ce que t'as maintenant. Et s'il y a une vérité à découvrir plus tard, tu la découvriras. Et moi aussi, tu vois. » Donc, et Le Problème Spinoza, ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça très, assez profond comme bouquin. Faut lire ça pas quand on est dans le jus du boulot. Hein.
Oui, c'est
ça. Je lis ça plutôt en vacances.
Plutôt en vacances,
ouais.
Tranquille.
Tranquille.
Jean, merci. Merci pour tout ce
merci
que tu Pauline. Nous as partagé. Si on veut te retrouver, LinkedIn, Clubhouse, où t'es présent plus ouais. que jamais, et puis aussi beaucoup Twitter, si je me trompe pas.
Ouais, un peu partout.
Un
mais
peu partout.
En fait, sur
t'as un site
pas...
aussi, non je me rappelle pas.
Ouais, mais alors je réponds pas à LinkedIn, je réponds pas sur Twitter, je réponds qu'à mes emails.
D'accord. Donc n'envoyez pas
mon
de.
Mon email il est en clair sur LinkedIn, c'est facile. Les gens ils prennent l'email, ils réécrivent un mail, je réponds.
Ben voilà, envoyez un mail.
Tout simplement.
Merci beaucoup Jean.
Merci Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.